France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio Canada.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Présente.
La folie des années 80.
On est dans la merde en France. On est dans la merde.
C'est cela, oui.
25 millions de rubis cubes vendus.
I said I want to fuck her.
Oh, maman.
36-15 infogrammes, des milliers de pins à gagner.
Mr. Gorbatchev, tear down this wall.
Une série réalisée par Cécile Poz et Marion Guimette.
Année 1988.
Nous revenons maintenant avec notre invité sur l'accord qui sera signé cet après-midi à Genève sur l'Afghanistan. Un accord qui prévoit, entre autres, le retrait progressif d'une partie des troupes soviétiques.
La mort de Chet Baker, le célèbre trompettiste de jazz, est tombée par la fenêtre, une chute du deuxième étage de son hôtel à Amsterdam. Chet Baker avait 60 ans.
Nous revenons donc sur la mort de Pierre Desproges, qui a succombé à un cancer à l'âge de 49 ans.
L'intelligence, c'est comme les parachutes, hein. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Hein.
Françoise Dolto laisse des milliers d'orphelins. Médecins, neuropsychiatres, psychanalystes, celle qui avait su trouver le ton et les mots pour parler psy au grand public est décédée jeudi soir.
Iran-Irak, les discussions continuent. C'est également aujourd'hui que l'ONU doit publier son cinquième rapport sur l'utilisation des armes chimiques dans le conflit du Golfe. L'Irak devrait être une nouvelle fois mis en cause.
Les années 80 sont marquées par une guerre qui opposera l'Iran à l'Irak durant 8 ans. Le 20 août 1980, Saddam Hussein déclare la guerre à l'Iran et plusieurs raisons sont invoquées. D'abord, il y a le tracé de la frontière entre l'Irak et l'Iran, qui est réglé par l'accord d'Alger du 6 mars 1975, mais qui est remis en cause. Ensuite, il y a la révolution iranienne de 1979, celle qui a permis à l'ayatollah Khomeini de prendre le pouvoir. Saddam Hussein craint que la révolution gagne les chiites d'Irak, réprimés par le régime irakien, mais soutenus par le gouvernement iranien. Enfin, la charte arabe de février 1980, rédigée par Saddam Hussein, est considérée par l'Iran comme un acte d'hostilité à son encontre.
Alors la guerre Iran-Irak est vue à l'époque comme un conflit localisé.
Pierre Marlet, journaliste responsable de l'info sur la première.
Et personne n'imagine que cette guerre pourrait dégénérer et avoir des répercussions au niveau mondial. À l'époque, dans les années 80, il y a une menace, une seule identifiée comme telle, c'est l'Union soviétique, c'est le communisme. Tous les moyens de défense occidentaux sont tournés vers l'Est. L'Allemagne est occupée et découpée comme ça en morceaux avec ça, ce sont les Américains, ça, ce sont les Britanniques, ça, ce sont les Français, ça, ce sont les Belges. Voilà, chacun a sa partie à défendre. Et donc, c'est le seul objet de préoccupation réel pour évaluer la menace de la part des militaires et de manière générale des services de renseignement. Cette guerre Iran-Irak, elle surprend d'abord parce qu'elle échappe justement au radar habituel. Ce n'est pas un conflit qui pourrait dégénérer entre pays communistes d'un côté ou pays occidentaux de l'autre. D'autre part, elle surprend aussi par sa longueur, puisque l'Irak, se croyant beaucoup plus fort que l'Iran, parce que mieux armé, pense qu'il va régler son compte à l'Iran très vite. Il se trompe, quelques conquêtes au début, puis très vite le front se stabilise, et puis le front va rester stabilisé. Et on voit cette guerre Iran-Irak un peu comme, vous savez, comme la guerre 14-18, des tranchées, des soldats qui sont retranchés et un front qui n'évolue pratiquement pas. Et des armes qui sont utilisées, des armes chimiques. Enfin, c'est une guerre sale, une guerre longue et où aucun des protagonistes ne parvient à avoir le dessus sur l'autre. D'ailleurs, ça se terminera en 1988 en revenant sur les positions de départ. Il n'y a ni gagnant ni perdant et la situation de 1988 sera celle de 1980 avec évidemment toujours cette tension entre l'Irak et l'Iran.
Le cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak est effectif depuis le milieu de la nuit dernière. Les Nations Unies ont achevé leur déploiement d'observateurs tout au long de la ligne de front et on espère que les casques bleus n'auront pas trop à intervenir.
Le cessez-le-feu est signé le 8 août 1988 et les combats cessent le 20 août. 800 000 personnes y ont perdu la vie. L'Amérique considère l'Union soviétique comme l'empire du mal selon les mots du président Ronald Reagan. Mais pour l'Iran, Satan, ce sont les États-Unis.
Dès la fin des années 70, dès la révolution de Khomeini, les États-Unis sont l'ennemi absolu, le grand Satan à Téhéran.
Thomas Negaroff, journaliste et historien, spécialiste des États-Unis.
Notamment parce que le Shah d'Iran, soutenu à bout de bras par les États-Unis, avait trouvé refuge aux États-Unis à la fin des années 70, quand il était malade. Il était soigné aux États-Unis, ce que Carter ne voulait pas d'ailleurs. Mais l'image avait fait le tour en Iran. Et regardez les États-Unis, c'est ceux qui soignent le Shah d'Iran, celui qui oppresse vos libertés, parce que le régime du Shah d'Iran, ce n'était pas non plus un grand régime de liberté. Et donc il y a à ce moment-là, dès ce moment-là, hein, avec la prise d'otage, un ennemi très clair qui est les États-Unis quand vous êtes iranien, et inversement. Et dans la guerre Iran-Irak de 80 à 88, les États-Unis sont plutôt du côté irakien, même s'ils préfèrent rester un peu en dehors d'un conflit régional dont ils espèrent tirer finalement tous les bénéfices, notamment récupérer pas mal de champs pétroliers.
C'est vrai que les années 80, ce sont des années de tension. Quand on fait des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui, la tension entre l'Amérique et l'Iran, elle naît à la fin des années 70 et elle va traverser toutes les années 80. Pourquoi ? Parce que se met en place en Iran un régime islamiste. C'est une république islamique, ça veut bien dire ce que c'est une théocratie. C'est-à-dire que, contrairement à tout ce qu'on a connu jusque-là, il y a un lien direct. On a le représentant de Dieu, l'Ayatollah Khomeini, qui a des pleins pouvoirs pour gouverner un pays. Donc, c'est un retour en arrière considérable. En tout cas, vu d'Occident, c'est vu comme ça. L'Iran va se refermer sur lui-même et va développer un discours anti-occidental inédit que l'on n'avait pas connu à l'époque. Donc, on va dire que le radicalisme islamique, il s'exprime à l'époque en Iran, et on apprend à l'époque, hein, parce qu'on connaît mal le monde musulman, on apprend que l'Iran, il est chiite, et qu'il est en opposition avec la plupart des autres pays du Moyen-Orient qui sont sunnites. Et donc on a cette puissance iranienne, qui est évidemment une puissance moyenne quand on la compare avec l'Union soviétique, donc c'est pas du même ressort. Mais on se dit bien que ça, c'est quelque chose qui va mal tourner, qui va tendre les relations au Moyen-Orient. L'Orient, c'est compliqué. Il y a déjà le conflit israélo-palestinien qui, déjà à l'époque, existe, avec cette espèce de sentiment d'humiliation arabe face à Israël qui est déjà très présent. Et puis, il y a ce régime iranien qui bouleverse complètement l'échiquier au Moyen-Orient. Pourquoi il bouleverse l'échiquier ? Parce qu'auparavant, les deux grands alliés de l'Amérique dans les pays arabes, c'était l'Arabie saoudite et l'Iran, les deux ensemble. Il y avait là un pays chiite, un pays sunnite, et donc, quelque part, il y avait deux pièces à jouer pour les États-Unis. À l'époque, ce qui faisait peur, il faut bien se mettre à l'époque, c'est pas tellement des régimes islamistes ou autres, c'est pas un monde arabe en ébullition, c'est toujours cette partie d'échec qui se joue partout. C'est que l'Irak est un allié de l'Union soviétique, la Syrie aussi, et donc on est toujours dans la guerre froide avec « t'as mes amis et tu as mes ennemis ». Et donc on est dans cette configuration. Pour le coup, l'Iran sort de cette lutte Est-Ouest et de cette confrontation de guerre froide entre l'Occident et les pays communistes. Et l'Iran n'est l'allié de personne, ni de l'Union soviétique, ni de l'Occident. Et en se mettant à part, il crée une nouvelle dimension. Pour une partie du monde arabe, c'est une forme de fierté aussi. De dire, voyez, on peut éviter d'être le vassal de l'un ou de l'autre camp. Et par ailleurs, dans les années 80, ce régime va devoir affronter une guerre très longue, une guerre de 8 ans entre l'Irak et l'Iran, l'Irak sunniste et l'Iran chiite. Pourquoi l'Irak attaque-t-il l'Iran ? Parce que l'Iran fait peur, parce que l'Irak de Saddam Hussein, qui est déjà au pouvoir à l'époque, a peur que la partie chiite de son pays ne se révolte contre lui avec cet exemple iranien. Donc en fait, le régime de Khomeini, il fait peur à tout le monde. Il fait peur aux soviétiques, c'est une des raisons pour lesquelles ils envahissent l'Afghanistan aussi. On sent que tout ça va avoir des répercussions terribles au niveau mondial. Et cette fixation iranien, eh bien, il prend naissance à la fin des années 70, il se développe dans les années 80 et il continue encore aujourd'hui.
États-Unis, Ronald Reagan, toujours dans l'œil du typhon. L'effacement de deux de ses proches conseillers n'a pas suffi à calmer la tempête, pas plus que l'enquête ouverte par le ministre de la Justice sur les livraisons d'armes à l'Iran.
En 1986, les États-Unis sont éclaboussés par le scandale des contrats au Nicaragua.
En 1986, il y a un énième coup d'État au Nicaragua, qui était quand même considéré un petit peu comme un précaré des États-Unis.
Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des États-Unis.
Et il y a parallèlement une guérilla sandiniste qui se développe au Honduras voisin pour essayer de renverser le nouveau gouvernement du Nicaragua, qui est d'obédience marxiste. Et là se met en place un système extrêmement bizarre et dangereux, à savoir que les conseillers de Reagan le convainquent que il y a en Iran des modérés qu'il faudrait soutenir et qui pourraient, eux, renverser le régime des ayatollahs. Et donc, on organise une livraison d'armes, de pièces détachées à des modérés en Iran, qui payent, évidemment, et cet argent retransite jusqu'aux contrats qui sont la guérilla anti-gouvernement marxiste au Nicaragua. Alors que l'Iran est sous embargo et que les États-Unis se sont engagés et ont voulu engager leurs alliés à ne jamais, jamais livrer d'armes à l'Iran des ayatollahs. Donc on a cette espèce de billard à trois bandes, des armes à l'Iran et de l'argent qui est en dollars, évidemment, qui revient de l'Iran au contrat du Nicaragua. Et quand ça finit par sortir dans la presse, évidemment, tout ça paraît d'abord contraire à la loi, puisqu'il y a cet embargo sur l'Iran, contraire aux engagements publics du président et de son équipe, et quelque chose qui paraît même assez mal pensé à l'égard de l'avenir du Nicaragua. Donc Ronald Reagan est évidemment très éclaboussé par cette affaire, mais il finit par s'en tirer en laissant entendre qu'il n'était pas au courant, que voilà, on lui avait peut-être donné les grandes lignes, mais rien de plus. Et il a pas mal été protégé par son équipe à cet égard. Et réellement, on n'a jamais trop su ce que savait réellement le président. Ça n'a jamais été vraiment clair et les enquêtes n'ont pas abouti. Et au fond, Reagan s'en est sorti parce que voilà, on ne pouvait rien prouver contre lui. Et puis la question de la guerre froide, du mur de Berlin, du dialogue avec Gorbatchev a pris le dessus sur cette opération totalement tordue, Iran-Contra.
Ce qu'on découvre avec l'affaire de l'Iran-Contra Gate, c'est qu'en réalité, en sous-main, les États-Unis jouent leur partition partout, qu'ils font ce qu'on appelle de la réelle politique. Et la réelle politique, finalement, c'est d'armer autant les uns que les autres, parce qu'on ne sait pas qui, à la fin, gagnera la guerre. C'est aussi de profiter des largesses du régime de Khomeini, qui a besoin aussi d'armes, pour ensuite pouvoir financer la rébellion des contrats au Nicaragua. Bref, on est dans un jeu assez complexe, mais qui montre à quel point la géopolitique est un jeu complexe, évidemment, et que la réelle politique des années Reagan vient clairement rompre avec la politique très morale des années Carter qui avait précédé.
À Bologne, l'hypothèse de l'attentat ne fait plus aucun doute. Une enquête est même ouverte pour atteinte à la sûreté de l'État. Un cratère large d'un mètre et profond de 20 cm a été découvert dans ce qui avait été la salle d'attente de deuxième classe.
Les années 80 sont aussi des années violentes. En Italie, la décennie s'ouvre avec l'attentat de la gare de Bologne. Ailleurs en Europe, on assiste à une montée des mouvements d'extrême gauche, les Brigades Rouges par exemple, en République fédérale d'Allemagne. En France, l'organisation terroriste Action Directe assassine Georges Besse, qui est alors directeur général de la Régie Renault, assassiné parce qu'il a licencié massivement.
On a tendance à penser que la société est beaucoup plus violente aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 80. Pourtant, les années 80 sont parsemées quand même de nombreux attentats, soit des attentats d'extrême droite, soit des attentats d'extrême gauche. Il y a un des plus terribles attentats à la gare de Bologne, en Italie, où des bombes vont exploser en pleine journée, alors qu'il y a plein de gens à l'intérieur de la gare. Donc c'est l'extrême droite qui est à l'œuvre. On retrouve en Belgique notamment les tueurs du Brabant, qu'on n'a jamais isolés, donc ces attaques dans des supermarchés qui sont intervenues à de nombreuses reprises, qu'on n'a jamais réellement élucidées. Tentative de déstabilisation, c'est l'hypothèse qui est avancée aujourd'hui. Il y a aussi l'extrême gauche qui est toujours extrêmement présente. Les Brigades Rouges, la Rote Armée Fraction d'Allemagne, Action Directe, les CCC. Donc cette violence traverse les années 80 et on a tendance parfois à l'oublier. Pour ce qui est des mouvements d'extrême gauche, c'est l'héritage de la lutte armée violente qui naît dans les années 70, où certains disent non, la société, on ne peut pas la réformer par les urnes, par la négociation. Il n'y a qu'une seule manière. Il faut prendre le pouvoir de manière violente. Il faut agresser les patrons, il faut les prendre en otage, il faut faire des actions armées. C'est la seule manière d'installer la révolution. Une vision un petit peu trotskiste, on pourrait dire, du début en tout cas. Et donc, on en a encore l'héritage dans les années 80. Je crois que c'est plus la suite de ce qui se passe dans les années 70. Pour ce qui est de l'extrême droite, c'est effectivement quelque chose d'étrange et d'étonnant de voir à quel point déjà il y a des groupuscules actifs qui font presque penser à ce qui s'est passé dans les années Trump et au Capitole ou des choses comme celle-là. Donc, des groupes armés qui veulent mener de façon violente également la lutte, qui ne croient plus à une manière pacifique de faire évoluer les choses. Donc, voilà, on voit là des parallèles entre les années 80 et les années d'aujourd'hui, 2010-2020. Il y a de la violence dans la société, je crois qu'il y en a toujours eu de la violence, mais elle s'exprime, elle est présente dans les années 80. Il y a d'ailleurs aussi, mais là ça n'est pas violent, mais il y a dans les années 80 aussi, je pense, le début d'une affirmation identitaire nouvelle. Donc ces mouvements radicaux régionaux s'expriment de façon plus forte. Hein, les Catalans, les Basques, déjà à l'époque en Flandre aussi, une affirmation nationale qui commence à faire parler d'elle. Donc on a déjà, dans les années 80, je pense que c'est le moment où on voit naître ces particularismes régionaux qui, au nom du nationalisme, voudraient une forme de souveraineté, d'indépendance, ou en tout cas d'autonomie très large.
Évacuez immédiatement tout le bâtiment. Sa destruction aura lieu 30 minutes après l'intervention de nos militants. Faites évacuer le boulevard Thirou et la rue Ferrer. Ne touchez jamais à notre charge. Un sigle, cellule communiste combattante. Une identification, campagne Karl Marx.
En Belgique, le CCC, les cellules communistes combattantes, se forme en 1983. Le groupe revendique 21 attentats en l'espace de 2 ans.
La tuerie de samedi soir à Alost était la 16e d'une série, une série d'autres agressions qui peuvent être mises en rapport direct ou lointain avec les activités de la célèbre bande du Brabant wallon. Pour les enquêteurs, tout a commencé en septembre 1982. Un policier est abattu à Havre et 2 gendarmes blessés lors d'un hold-up commis contre une bijouterie. Petit à petit, on a eu l'impression que ce sont les grandes surfaces qui ont été prises comme cible par ces commandos, et notamment 2 firmes en particulier, Colruyt et surtout Delhaize. Il va de soi qu'on ne peut s'empêcher de se poser des questions à ce propos, tout en constatant que cette sinistre bande qui tue aveuglément n'agit pas à l'aveuglette. Ce sont des opérations bien préparées contre des objectifs qui offrent aux tueurs toutes les garanties d'une fuite rapide.
Les agressions commises par les tueurs du Brabant ont secoué la Belgique de 1982 à 1985 et l'affaire n'est à ce jour toujours pas élucidée. Le 9 novembre 1985, les tueurs du Brabant commettaient leur dernier crime. Quelques semaines auparavant, un autre drame s'est déroulé dans le plat pays. C'est le drame du Heysel.
Devant le stade, les volets des guichets sont fermés. Cependant, ils sont des centaines et bientôt des milliers qui attendent. Certains ont même passé la nuit sur place. Ils sont venus d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne, de Hollande, du Grand-Duché et de France. Ils rêvent de cette finale Liverpool-Juventus, mais leur cauchemar ce matin, c'est d'accéder au trop rare ticket du match.
Nous sommes le 29 mai 1985 au stade du Heysel et la finale de la Coupe d'Europe de football oppose Liverpool à la Juventus.
Le drame du Heysel, c'est à la fois l'événement le plus dramatique auquel j'ai assisté dans ma carrière.
Michel Lecomte, ancien directeur des sports de la RTBF.
Ce jour-là, il fait très chaud aux abords du stade. Moi, je suis jeune journaliste et je couvre l'actualité pour le journal télévisé. Donc, je fais une préface. Bon, le 29 mai 1985, la Belgique est particulièrement fière d'accueillir une première finale de Coupe d'Europe entre 2 ténors absolus du football européen. Liverpool est l'équipe qui domine la scène européenne. La Juventus voudrait aller chercher le Graal particulier et bousculer la Juventus dans un match qui est très très ouvert. Juventus qui est emmenée par Platini. Platini qui vient d'être champion d'Europe en 1984 avec la France. Il est ballon d'or, star incontesté et adoré par les Italiens, un joueur d'exception, ça on est tous d'accord pour le dire. L'événement, moi je le couvre en tant que journaliste sportif pour le journal télévisé, donc je dois faire une séquence de préface sur ce grand événement sportif, cette finale européenne au stade du Heysel, dans un stade qui est un peu vieillot quand même, hein, mais autour duquel quand je me promène avec le représentant des forces de l'ordre, je vois plutôt des scènes de rapprochement entre les Italiens et les Anglais. On pique-nique sur l'herbe aux alentours du Hesel. L'ambiance, sincèrement, est très bon enfant. Par contre, en fin de journée, des incidents ont lieu. Cette atmosphère-là n'est pas du tout la même dans le centre-ville. Grand Place, Place de Brouckère, des échanges plus violents. On parle même d'un coup de couteau donné par un supporter italien à un supporter anglais.
RTBF, 20h, Jacqueline Pollack.
Bonsoir. Très graves incidents au Hesel où doit se dérouler ce soir la finale de la Coupe européenne des clubs champions de football. Les supporters de Liverpool sont décidément des gens très agités. On dit qu'il y aurait un mort dans les tribunes.
Mais moi, quand je reviens présenter ma séquence au journal télévisé, il est 19h30, je n'ai pas eu vent de cela, les moyens de communication ne sont pas les mêmes, et ma séquence, elle est complètement en décalage avec le direct des images qui arrivent et la charge des supporters anglais vers le fameux bloc Z. Donc, on est dans la tribune derrière le but, il y a trois blocs, X, Y et Z. Dans le bloc Z sont logiquement massés les supporters belges, les spectateurs belges, qui ont acquis des billets via la fédération belge. Mais c'est tout l'ancrage de la communauté italienne dans notre pays et toute la présence de nos amis italiens dans l'ensemble de nos familles. On a tous des liens et donc ce sont majoritairement des Italiens qui sont là, qui vont d'ailleurs payer le plus lourd tribut hein, dans les 39 morts, le plus lourd tribut à ces victimes, 39 morts et 600 blessés. C'est énorme après cette charge des supporters anglais qui ont forcément bu, qui ont, paraît-il, eu l'info qu'un de les leurs serait mort au travers du coup de couteau qui a été donné sur la place de Brouckère. En attendant, les forces de l'ordre ne sont pas suffisamment nombreuses. Les 15 mètres qu'il y a de zone neutre, de zone tampon, sont balayés en quelques minutes. Et les victimes vont se compter vraiment dans un bilan qui sera catastrophique et qui met en cause à la fois l'organisation de la Fédération belge, mais aussi des forces de l'ordre belge et l'agressivité des hooligans anglais. Il faut savoir que les hooligans italiens, il y en avait aussi, mais ils étaient en face. Ils n'avaient pas distinctement connaissance de ce qui se passait dans le fameux bloc Z. Donc, les choses dégénèrent pour un bilan dont on a déjà parlé, mais on est là à une sorte, le mot est sinistre, hein, d'apogée du hooliganisme. Le hooliganisme né en Angleterre, qui va connaître un autre bilan catastrophique, mais moins lié à des faits de hooliganisme, c'est à Hillsborough en 1989, demi-finale de la Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Nottingham, 98 morts, là, dans un incendie de tribune. Mais si on a accusé les supporters de Liverpool, un bilan qui était fait après les a, entre guillemets, disculpés. En attendant, Margaret Thatcher ne veut plus de cette image pour son pays du hooliganisme anglais et on va à ce moment-là entamer une réforme dans de nouveaux stades. On va créer de nouveaux stades beaucoup plus confortables mais qui vont changer complètement la donne pour les supporters qui n'auront plus accès au même prix. Le chiffre qu'on donne entre 72 et 92, eh bien, c'est une augmentation de 1000% du coût des abonnements pour les supporters de foot. Donc, le profil social va complètement changer. Il n'y a plus que des sièges où on peut s'asseoir, donc, dans le stade. Et forcément, une chose et l'autre amènent que le hooliganisme va s'éteindre pour renaître un peu après. Mais cet événement-là du Hesel, il est révélateur de ce hooliganisme existant à l'époque qui a connu cette sinistre apogée le 29 mai 1985.
Devant l'entrée de la tribune et comme à poste de premier secours ce ne sont que des blessés et plusieurs, j'ai vu plusieurs civières recouvertes avec la couverture carrément.
Après cela, gros débat, va-t-on ou non jouer le match? Le match qui forcément n'a pas débuté dans ces conditions-là, mais les discussions entre les autorités, le ministre de l'Intérieur, qui est Charles-Ferdinand Nothomb, qui poussait à la démission, ne démissionnera pas à ce moment-là, mais le bourgmestre de Bruxelles, Hervé Brouhon, le représentant de l'UEFA, le représentant de Jacques Georges, qui est un président français de l'UEFA, décideront qu'on dispute ce match, Jacques Georges était là d'ailleurs, qu'on dispute ce match, et je pense que c'est une très bonne option qui a été prise. Beaucoup d'observateurs en voudront à Michel Platini, qui a été l'auteur de l'unique but sur pénalty, transformation d'un pénalty pour la Juventus, ramenant ainsi la coupe un peu maudite en Angleterre. Beaucoup lui en voudront, disant voilà, il a dansé, célébrant sa joie sur le ventre de mort. La responsabilité de tout ce qui s'est passé n'est évidemment en aucun cas celle de Michel Platini. Et je pense que le joueur sur le terrain a voulu défendre ses couleurs absolument. Et après, on a même demandé aux Italiens de faire un tour d'honneur pour pouvoir évacuer les supporters anglais. Mais il a fallu beaucoup de temps pour que les services d'ordre s'organisent et aient les bons réflexes. Les personnels policiers impliqués dans cette organisation ont été jugés. Les jugements ont été peu sévères et sont principalement les supporters anglais, les hooligans, les jeunes hooligans qui ont eu des peines de prison. D'autres en ont eu avec sursis, mais la Belgique est sortie à jamais meurtrie. Les Anglais ont été pénalisés pendant 5 ans, puis disputés de Coupe d'Europe pendant 5 années. Pendant ce temps-là, l'Angleterre a soigné son hooliganisme, et après on est parti vers d'autres horizons qui ont écarté le hooliganisme des stades, même si aujourd'hui il est présent de nature différente, encore dans le football.
Michel Platini, quels sont les sentiments d'un vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions quelques heures après sa victoire dans des conditions qu'on connaît ?
Vainqueur, c'est un grand mot. Je pense qu'aujourd'hui, tout est triste. Plus triste que joyeux. On a vécu d'horribles moments hier soir et on est triste.
Vous étiez tenu au courant de la situation ?
Oui, absolument, parce qu'on ne pensait pas jouer. Donc les gens qui sont venus nous ont dit ça parce qu'ils savaient qu'on n'allait peut-être pas jouer. Alors, nous raconter un peu tout ce qui se passait. Vraiment, c'était très difficile dans le vestiaire. On ne savait pas quoi faire. En plus, on avait des sentiments très, très humains envers tous les Italiens, tous ces pauvres personnes qui sont mortes. Vraiment, ce n'est pas des choses faciles après de rentrer sur le terrain pour jouer. Heureusement qu'on a joué.
Au moment du coup d'envoi, vous saviez le nombre de victimes, connaissiez ?
Oui, on savait tout. On savait qu'il y avait à peu près 35 morts au moment-là. Et ça faisait beaucoup, oui.
Mais vous avez pu vous concentrer sur ce match ?
Non, vous savez, on ne s'est même pas échauffé. On est rentré sur le terrain parce qu'ils voulaient tout prix qu'on joue tout de suite. Donc on est rentré, on a joué tout de suite. Et après, on est rentré complètement dans le jeu. Mais à la mi-temps, avant le match, quand on est rentré sur le terrain, on a l'impression que c'était la guerre. Et là, j'ai pris un sacré coup de vieux. Parce que quand on voyait les supporters d'un côté et les autres de l'autre qui s'insultaient ou qui étaient tristes ou qui pleuraient, et que les Anglais rentraient d'un côté et nous rentraient de l'autre, je crois que le football a complètement disparu de ma tête hier soir.
Ce drame a quand même eu une conséquence positive, c'est la consolidation et la sécurisation des stades.
L'ensemble des dispositifs de sécurité qui sont en place sont le fruit de réflexions à la fois des instances du football, mais des instances politiques, des commissions ont été mises en place après cela, forcément à l'échelle de tous les pays. Et les stades qui ont été construits dans ce sens, pour éviter ce qu'on avait vécu. Mais le stade du Heysel était lui-même désuet, je veux dire, il était vieillot, il aurait mérité avant cela. Je ne pense pas que la Belgique méritait, avec le stade qui était le sien, d'organiser un match de cette importance. Il y avait 60 000 spectateurs. Les 60 000 dans ce stade, c'était un peu courir déjà un risque qu'avec un peu de réflexion, il n'aurait pas fallu prendre entre ces deux pays où le hooliganisme était particulièrement important.
Un an après le drame du Heysel, se déroule la Coupe du monde de football. Nous sommes au Mexique, en 1986, et le 22 juin de cette année 86, en quart de finale, l'Argentine s'oppose à l'Angleterre. À la 51e minute de jeu, Diego Maradona ouvre le score en marquant un but de sa main.
En 1986, c'est un contexte particulier, de nouveau un contexte politique qu'il faut rappeler, puisque non seulement les Anglais ont cette réputation d'avoir amené en Argentine le football qui est maintenant pratiqué magnifiquement par les Argentins, qui l'ont adapté à leur sauce, mais surtout on est dans le contexte de la guerre des Malouines. Et donc pour l'Argentine, il est plus important que tout de gagner ce match contre les Anglais. À la limite, c'est même presque plus important de remporter ce match que de remporter la Coupe du Monde. Les Argentins vont la remporter, la Coupe du Monde, et ils vont battre les Anglais ce jour-là, dans un match qui reste dans toutes les mémoires pour deux raisons. La première, c'est évidemment le but inscrit par Maradona de la main. Alors en face de lui, le gardien s'appelle Peter Shilton, il fait quand même 1m85. Maradona est largement plus petit que cela et il a la présence d'esprit sur le centre qui lui est adressé de faire jouer sa tête. Donc il fait un mouvement de la tête qui fait que l'arbitre tunisien ne voit pas sa main. Or, c'est de la main qu'il met le ballon dans les filets, à tel point que ses coéquipiers reviennent en se disant « bah oui, l'arbitre va siffler ». Ils ne courent pas vers Maradona, les Argentins, pour le féliciter, sauter dans ses bras et donner lieu aux scènes de joie habituelles, forcément qui seraient encore plus débordantes, puisqu'on vient d'inscrire un but contre l'Angleterre. Non, pas du tout. L'arbitre valide le but et les Argentins mènent au score. Ils inscriront un deuxième but. Alors, c'est pour ça que je disais qu'il est inoubliable. Un deuxième titre, c'est que ce deuxième but de Maradona qui est parti de son camp, qui a traversé l'ensemble des lignes anglaises en dribblant 6 joueurs avant d'aller battre Shilton, est un des plus beaux buts de l'histoire du football, qui a été d'ailleurs consacré comme le plus beau but du siècle dernier. Donc ça, c'était le paradoxe Maradona. Tout est dans Maradona, à la fois son côté exceptionnel comme joueur, un talent je pense personnellement que je n'ai jamais vu égalé. Et derrière ça, le côté tricheur, pour arriver à ses fins, il avait mis cela en place. Et quand on lui a posé la question, il a dit qu'il y avait un peu de la tête de Maradona dans ce but. Hein, et il y avait aussi un peu de la main de Dieu. Il l'a reconnu. Mais ce qui est terrible pour Maradona, qui est mort en 2020, quand même 60 ans, hein, c'est la vie de ce footballeur qui, pour moi, a été un peu sacrifié sur l'autel du dieu football. Et Maradona disant lui-même, c'est pas important, ma vie, c'est ce que j'aurais apporté comme bonheur dans la vie des autres. Mais en attendant, quel mythe pour un joueur qui aura marqué à jamais, différentes manières, parfois de manière totalement opposée, l'histoire du sport.
Parmi les grands sportifs qui ont traversé la décennie 80, il y a notamment les pilotes de Formule 1, Thierry Boutsen, Gilles Villeneuve, Keke Rosberg, ou encore les deux pilotes, Ayrton Senna et celui qu'on surnomme le professeur, Alain Prost. Et bien que faisant partie de la même écurie, les deux coureurs se battront quand même pour le titre.
Grand Prix de France, une nouvelle victoire pour le champion du monde en titre, le français Alain Prost, sur McLaren Honda. Derrière lui, je dirais que c'est presque devenu un classique, son compagnon d'écurie, Ayrton Senna, suivi d'Alboreto sur Ferrari.
Pas loin. Il est même tout proche. Est-ce qu'ils ont exactement les mêmes appuis, les mêmes braquages, les mêmes.
Et là, le type là, ouais, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez, allons, ambiance et ambiance, sous-pousse.
Saga Africa, chantée par Yannick Noah, qui avait remporté Roland-Garros en 1983. Plusieurs joueurs et joueuses ont marqué de leur empreinte le tennis des années 80. Il y a par exemple Steffi Graf, Martina Navratilova, Chris Evert, Boris Becker, Stefan Edberg, Ivan Lendl, John McEnroe, Jimmy Connors et Björn Borg. Ce qui évolue, ce qui change, ce qui se crée, c'est que les sportifs deviennent dans les années 80 des stars.
Saga Africa, ambiance de la blue.
Oui, forcément, l'explosion des canaux de télévision, notamment, on parlait de l'arrivée et de l'éclat particulier que les télévisions privées à péage vont donner au sport.
Michel Lecomte.
Créant une concurrence avec les chaînes de services publics qui elles-mêmes vont vouloir garder des droits. Médiatiquement, c'est vrai qu'il y a une sorte d'emballement. Maintenant, les médias traditionnels ont toujours suivi de très près les sports, mais ça continue, ça s'emballe. Et surtout, d'un point de vue marketing, ça s'emballe. Et donc, quand je me souviens de Skedi Merckx, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, le plus grand cycliste de tous les temps, celui qui aurait dû gagner le plus, il a été plus grand, mais c'est pas lui qui a gagné le plus dans le XXe siècle, certainement pas. Skedi Merckx, dans sa plus belle année, en 1974, pour lui, il me dit, j'ai gagné, tout des comptes faits, 14 millions de francs belges, qui correspond à 350 000 euros. Fin des années 70, Björn Borg, en signant avec la petite usine de Couvain, l'usine Donnet, qui était fabricant de raquettes, signe un contrat à 500 000 dollars, un contrat du siècle, disait-on, avec 5% de royalty. Imaginez que début des années 80, l'usine Donnet vend 2 millions de raquettes par an. Donc les royalties de Borg, on peut faire une estimation en disant qu'on est très 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 loin de ce que Merckx aurait pu gagner. Donc il y a une rentabilisation qui est liée à la starification, forcément. Le tennis est aussi un des sports, mais le cyclisme l'était également, hein, certainement à cette époque-là, avec Borg, McEnroe, Connors. On a tous des souvenirs inoubliables. Tout ça a été starifié, tout ça a été extrêmement rentabilisé, extrêmement bien rentabilisé par les sportifs, et beaucoup mieux que ça n'avait été le cas auparavant. Borg va renoncer à sa carrière début 83. Il a 26 ans, il est très très jeune. Ah ben, c'est automatiquement lié au déclin de Donnet, qui ne peut pas se repositionner sur un marché dont il ne trouve pas les clés, parce que les raquettes sont devenues celles de grands amis. Donc tous les enjeux du sport sont souvent directement liés aux exploits des champions.
En 1988, le sport est marqué par un scandale.
And he got his usual brilliant start. Mitchell got away better. Christie's got some work to do. Now Will Benn stays switched on. He's just in front of Mitchell. Christie comes through hard. Johnson looks. Christie beats him. 10-1-2. And Johnson may have finished third.
Nous sommes en Corée du Sud, à Séoul. C'est là que se déroule la 24e Olympiade, les Jeux Olympiques d'été. 160 pays sont présents, seuls 7 ont décliné. Et en ce 24 septembre, le sprinteur canadien Ben Johnson réussit un exploit. Il remporte le 100 mètres en 9 secondes 79.
Ben Johnson est l'homme le plus rapide du monde. On sait qu'on va vers un duel exceptionnel entre lui, le Canadien, et l'Américain. Toujours là, toujours présent. L'immense athlète qu'est Carl Lewis. 10 médailles au total, 10 médailles olympiques, ce qui en fait une référence à tout jamais. Aux Jeux olympiques de Séoul, il est présenté, Ben Johnson, comme le favori. Pourquoi ? Parce que on dit qu'il a une capacité à s'élancer des deux pieds, capacité qui est rarissime, mais qu'il a une technique qu'il maîtrise à un point tel qu'on l'a, on l'avait chronométré à 7 millièmes de seconde d'un faux départ. Donc ça veut dire qu'il a vraiment là flirté avec l'extrême limite et que le fait de flirter avec cette extrême limite va lui donner l'avantage. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe dans la finale du 100 mètres. Il bat Carl Lewis et il établit un temps d'exception de 9 secondes 83 centièmes. Là, à ce moment-là, tous les commentaires sont unanimes. C'est phénoménal. Bon, après, on apprendra. Je me souviens bien, je présentais l'émission qui faisait le résumé chaque jour des Jeux Olympiques. Ça s'appelait Soir après. Après soir, oui, c'est à Séoul. Et donc, on apprend, juste un peu avant l'émission, ce qui a fait qu'on a dû bouleverser notre conducteur, qu'il a été convaincu de dopage au stanozolol. Et forcément, à ce moment-là, c'est un peu toute une partie du mythe qu'on a autour du sport, parce qu'à chaque fois, est-ce par naïveté ou en plus, c'est certainement de la candeur. Devant des athlètes de ce niveau, on n'ose pas se dire qu'ils vont aller jusque-là pour aller chercher la plus belle des médailles. Eh bien oui, forcément, cette candeur-là, elle est prise en défaut. Et je me souviens que mes confrères canadiens, avec lesquels on avait des contacts, hein, par la langue, on est quand même aussi souvent en contact avec eux, avaient honte. Et donc, ils ont mis en place, après cela, la commission Dobin, qui a pris cette problématique avec tout le Canada à bras-le-corps, en créant notamment un centre indépendant de dopage sportif. Ça a constitué une étape supplémentaire dans la lutte contre le dopage. Ben Johnson a cru qu'il serait un jour réhabilité. Il a continué de s'entraîner pendant 10 ans encore. C'était un peu pathétique, parce que c'est vrai que je me souviens de reportages qui ont été faits sur lui. Jamais il n'a été réhabilité. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison de le réhabiliter après avoir fait ce qu'il avait fait.
Cette affaire de dopage va permettre de surveiller encore de plus près les athlètes, même si la tricherie a toujours fait partie des jeux sportifs. Parfois même, les soupçons d'arnaque étaient plutôt tirés par les cheveux. Il n'empêche que durant ces années 80, on attend des sportifs qu'ils dépassent leurs limites, qu'ils deviennent des stars, des héros, des modèles pour les jeunes. Le sport résume bien les valeurs véhiculées dans les années 80, à savoir le fric, la réussite, le culte de la performance et la jeunesse.
Il y a des films qui représentent à eux seuls tout le clinquant des années 80.
Dick Tomasovich, professeur d'histoire du cinéma et des arts audiovisuels à l'Université de Liège.
Prend partie le rapport politique et dominateur de l'Amérique, cette espèce de vision du monde très manichéenne, très idéologiquement marquée par la compétition, par le militarisme. J'en pointe quelques-uns, il y a le Commando avec Schwarzenegger bien sûr, mais peut-être plus fameux parce que ce sont d'immenses succès à l'époque, et le Top Gun de Tony Scott en 86 et un peu juste avant le fameux Rocky IV. En 1985 avec Stallone en challenger américain qui doit aller affronter un immense russe qui lui alors je dirais à tout l'état qu'on peut prêter à la Russie tout d'un coup un ennemi un peu fantasmatique comme ça qui est à la fois surentraîné, un homme machine, dépourvu de sentiments avec une technologie avancée, et face à cela on a Sylvester Stallone lui-même qui est censé représenter l'Amérique combattante, vaillante mais qui s'entraîne de manière pure, en quelque sorte. Hein. Et donc il y a une noblesse là, de l'entraînement par rapport à une force militaire exagérée, technologique, dont on est en plein fantasme, et tout ça se concrétise sur un ring de boxe. C'est un film qui représente admirablement bien les mentalités des années 80.
La présidence et la personnalité de Ronald Reagan ont contribué à façonner le cinéma des années 80.
C'est la vision d'un monde très simple qui se résume à des grandes valeurs, les gentils, les méchants, les cools, les pas cools. Et ça, ça traverse vraiment tous les films de comédie, les films d'action. C'est très étonnant de voir à quel point, sous cette ère Reagan, hein, qui est arrivé au pouvoir en 79, le cinéma va tout à fait cautionner les idées de droite, va se construire entièrement autour de personnages masculins, blancs et puissants, finalement. C'est vraiment l'image d'une société fondée sur la compétition, qui ne l'interroge absolument pas. C'est l'émergence et la confirmation de grandes stars conservatrices, hein, comme Chuck Norris, Sylvester Stallone, bon, évidemment Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Clint Eastwood.
On hérite, peut-être, pour être un peu critique et un peu dur quelques instants, mais d'une forme aussi de paresse du regard qui est peut-être resté à partir de là, puisque les films des années 80 étaient finalement assez peu dans la recherche esthétique. On assiste globalement à une forme de grande standardisation. Et c'est un peu l'ère, finalement, que nous connaissons aujourd'hui du téléfilm qui naît à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va se contenter d'assez peu en termes de langage, de propositions cinématographiques. Mais idéologiquement, ces années, elles sont très marquées, hein, on a dit par ces années, évidemment, Reagan, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un individualisme triomphant qui passe, on le sait politiquement, par la fameuse diminution des aides sociales, par la rénovation de ce rêve du mythe américain du self-made man, par l'explosion aussi des crédits budgétaires militaires. Et donc ce contexte idéologique a très fortement marqué le cinéma. Je dirais que on en hérite sans doute un culte du corps. Et évidemment le culte du bodybuilding qui a commencé dans les années 70, mais je veux dire qui explose de manière très mainstream dans les années 80, c'est la musculation, le jogging, l'aérobic, c'est la grande ère des mannequins, des playmates aussi. Tout ça existait bien sûr avant, mais peut-être pas dans cet état d'omniprésence, de marketing permanent. De ce principe de glorification qu'on a connu aux années 80, qui sont quand même les années des corps de, pour prendre les deux grandes images de l'époque, hein, de Sylvester Stallone et de Arnold Schwarzenegger, bien sûr. Hein. Donc on va remettre ça en question. Et puis, on voit bien que quand même cette culture du corps, elle va rester. Hein, et on la retrouve aujourd'hui encore dans une partie du cinéma de grand divertissement. C'est le côté clinquant encore des films de Michael Bay, par exemple. C'est des franchises comme Fast and Furious. Ce sont des stars que l'on aujourd'hui qui sont des Vin Diesel, des Jason Momoa, des Dwayne Johnson, des Chris Hemsworth, qui ont encore des corps presque de figurines un peu surgonflées comme ça, qui nous viennent en droite ligne des années 80. Alors, on voit bien que quelque chose de cette idéologie vraiment très marquée des années 80 a été sauvegardé jusque notre époque. Les années 80, c'est le culte de la performance dont nous n'avons toujours pas tout à fait réussi à sortir aujourd'hui.
I'll be back.
D'ailleurs, le film d'action va devenir lui-même le tout nouveau grand modèle, si je puis dire, de ce cinéma, avec voilà, la décennie se finit sans doute avec le chef-d'œuvre du cinéma d'action qui reste, à mon sens, relativement dépassé. C'est Le piège de cristal de John McTiernan, le Die Hard, avec Bruce Willis. On est en 1989, si j'ai bon souvenir. Là, on impose vraiment un style qui sera très souvent imité, mais rarement égalé par la suite, de quelque chose d'assez brutal, d'assez primitif, avec le découpage des corps, avec une virtuosité sèche des mouvements, un cinéma qui propose un monde technologique qui va rétrograder vers le chaos, en quelque sorte. Tout ça à fort renfort de montage issu du clip, de la publicité, du clip vidéo. Donc, faut se rappeler que MTV, évidemment, qui émet dès le début des années 80, va influencer énormément aussi tout le cinéma des années 80.
Certains cinéastes s'opposent à cette vision à deux dimensions de l'Amérique, comme par exemple David Lynch ou Tim Burton.
On va effectivement avoir certains cinéastes qui proposent un cinéma assez personnel, vont réussir à exister parce qu'ils sont aussi, dans le fond, de très grands formalistes. Ils sont aussi des metteurs en scène qui vont vers l'image immédiate. Par contre, ils l'attirent vers une direction un peu différente et souvent un peu critique. Alors, je pourrais en pointer trois, mais il y en a sans doute beaucoup plus, mais c'est les trois qui me semblent peut-être avoir le plus marqué cette époque et puis qui ont continué leur carrière par la suite. Le premier auquel je pense, c'est Brian De Palma, qui avait commencé à travailler dans les années 70, mais qui va s'épanouir vraiment dans les années 80 avec un style, j'ai envie de dire, de pastiche, de recyclage des grandes formes hollywoodiennes, comme Spielberg, comme Lucas. Mais lui, sa référence absolue, c'est d'abord Hitchcock, et puis le film des gangsters des années 30. Et certains de ses films sont des succès absolument gigantesques, comme Scarface et Les Incorruptibles, par exemple. Tim Burton, parmi les grands films des années 80, il y aura bien sûr Édouard aux mains d'argent, qui est un film très important pour lui, et Batman, sa relecture de Batman, qui offre un Batman très peu en fait dans la conquête et dans le triomphe des héros américains de l'époque dont on vient de parler, comme Rocky, Rambo et les autres. Son Batman est vraiment un être très proche du côté bande dessinée, animation, le côté décor en carton-pâte est très revendiqué. C'est un Batman très stylisé, son Joker aussi. Donc il y a vraiment un regard très personnel, très formaliste, très stylisé que Burton a proposé et qui lui permet d'exister à côté de tout ce qu'on en a dit et de pouvoir en fait développer grâce à ce système formaliste très très spécifique, grâce à cette esthétique qui est très référentielle, dans le fond, une vraie dimension à la fois d'hommage évidemment au cinéma américain, mais aussi une dimension satirique de l'Amérique dont il se moque. Édouard aux mains d'argent est assez, est peut-être le plus explicite par rapport à ça, mais on voit ses critiques aussi dans Pee-wee et dans Batman se moquer un petit peu de la vie quotidienne américaine, de la vie de banlieue américaine, des petites familles, des petites maisons, de ces espèces d'images glacées que nous vendent la publicité. Tim Burton ne les a jamais affrontées vraiment directement, mais a réussi en fait un peu par la bande et par un univers comme ça, magique, fantaisiste, qui a l'air d'être un peu inoffensif, mais quand même à se positionner contre un monde dans lequel il ne se retrouve pas et qui va fédérer autour de son œuvre, je pense, une partie importante du public qui a envie de voir autre chose.
Et puis celui qui est peut-être le plus en marge, c'est David Lynch, qui sort en 1980 Elephant Man.
C'est un biopic qui revient sur la vie de John Merrick, qui était cet homme éléphant montré dans un cirque en raison de sa déformation physique. On sent bien là le goût de la monstruosité. Et puis c'est un film aussi très critique par rapport à qu'est-ce que c'est que le spectaculaire à l'américaine, en fait, à travers cette histoire historique qui est proposée. Et puis Lynch va aller vers un projet qui le dépasse sans doute un petit peu, un grand projet de science-fiction qui est Dune en 84. Et puis va retrouver un genre beaucoup
plus ambigu avec Blue Velvet en 1986, qui lui aussi est un film qui interroge énormément la vie américaine quotidienne, les images léchées des banlieues, puisque tout commence avec une oreille découpée que l'on trouve dans le gazon parfait d'une de ces petites villas américaines et qui va ouvrir un très grand trouble, un trouble à la fois sensoriel, sexuel. Il y a quelque chose d'assez fascinant chez Lynch. En fait, tous les films de Lynch à partir de Blue Velvet vont vraiment ressembler à des formes de cauchemars réveillés, en quelque sorte. Alors, en reprenant finalement toutes ces images publicitaires de l'Amérique, mais en les creusant de manière assez provocante, assez gênante, et d'en donner une forme de vision cauchemardesque. C'est bien cela que fait Lynch, avec une imagerie parfois violente, un peu dérangeante, offensante, mystificatrice aussi, et très très énigmatique ou mystérieuse. Tout un monde en fait très inquiétant qui peut se dissimuler derrière le vernis social, derrière les petites bourgades américaines, c'est très clair. Donc Blue Velvet est une pix qui en quelque sorte clôture, finit ces grandes années 80. Mais les années 80 vont remettre le genre au cœur de la production, parce que le genre est facilement identifiable pour le spectateur et pour l'exploitant. Il y a toute une série de genres, évidemment, qui vont se remettre à refleurir. Il y a peut-être deux genres importants, plus importants que les autres, me semble-t-il, sur les années 80. C'est le genre fantastique, d'abord, et le genre de science-fiction, ensuite. Du point de vue du cinéma fantastique, les années 80, qui sont obsédées par la question du corps, le corps individuel et le corps social. Ces années 80, dont on sait que dans le cinéma mainstream et le grand cinéma d'action valorise systématiquement le corps un peu extraordinaire, l'exploit du corps, quelque chose d'anormal, enfin de très compétitif comme cela. Dans le fond, ce cinéma fantastique va permettre de retourner la question. Il va renvoyer, en interrogeant vraiment le corps, cette dimension, cette idéologie du corps glorifié des années 80. La décennie, elle s'ouvre d'abord sur un film absolument remarquable, qui est Le Shining de Kubrick, qui est un film de terreur pure, évidemment, qui a une force importante au-delà, évidemment, de la maîtrise du film pour les années 80, c'est de montrer finalement ce qu'est le socle de l'Amérique, c'est-à-dire la cellule familiale, explosée complètement, avec ce personnage interprété par Jack Nicholson, qui devient absolument fou, dément et possédé, et qui en veut à sa propre famille, avec qui il est donc enfermé, confiné, si je puis dire, dans un hôtel en plein cœur de l'hiver, de manière extrêmement solitaire. Donc, film de terreur pure qui retourne, en fait, en quelque sorte, l'inquiétude au sein même du foyer familial. Et puis, quelques très grands cinéastes qui vont vraiment exploser durant les années 80 du côté du fantastique. Je pense d'abord à John Carpenter, qui va connaître ses années les plus fécondes dans les années 80. Son grand film qui le fait vraiment connaître, c'est à l'orée des années 80, c'est fin des années 70, début des années 80, c'est le fameux Halloween, La Nuit des Masques. Mais ça se suit par The Fog en 80, New York 1997 en 81, The Thing 82, Christine 83, Starman 84, Le Prince des Ténèbres 87, etc. Invasion Los Angeles en 88, Invasion Los Angeles sont des films à dimension très politique, en fait, qui arrivent d'une part, pour The Thing, à interroger ce qu'est le corps de manière très vive, visuelle et très métaphorique en même temps, ou bien à interroger l'idéologie répétée, répétée et répétée par la publicité qui conditionne complètement les êtres. C'est Invasion Los Angeles qui est un grand film de ce point de vue-là, puisque les personnages sont soumis à des messages en fait publicitaires répétitifs qui les transforment en personnes soumises.
Les films de genre se développent dans ces années 80. Les films d'action, les comédies, les films d'horreur, les films de science-fiction et aussi les films fantastiques et leurs fameux effets spéciaux. « Le film fantastique qui marque les esprits en 1982, c'est évidemment E.T. de Steven Spielberg.
Alors, du point de vue des effets spéciaux, il y a effectivement beaucoup de recherches à l'époque. Voilà, il y a des films qui vont très fortement marquer ces années 80 en termes d'effets spéciaux. On pense au E.T. évidemment de Spielberg en 82, puis dans la foulée les Ghostbusters par exemple, Terminator de James Cameron. Il y a de la recherche. Alors, à la fois, on fait les travaux sur les effets spéciaux profilmiques, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui se situent devant la caméra, qui sont en fait des effets assez traditionnels, comme la maquette par exemple, l'animation de poupée en animation, donc en stop motion, sont des vieilles techniques qu'on va largement améliorer dans les années 80. Et puis on va aussi travailler sur des effets filmiques et optiques, c'est-à-dire des choses qui font vraiment en laboratoire, des trucages sur pellicule, des incrustations, des traitements de couleurs et de lumière. Lucas voit bien qu'on va sans doute pouvoir développer des technologies et des techniques qui vont permettre d'aller de plus en plus loin dans la retouche de l'image, et donc ce qu'on appelle la post-production. Aujourd'hui, énormément de films se font avec des post-productions presque plus importantes en termes de temporalité que la période de tournage même. Parce que le numérique est arrivé, le numérique permet de retoucher vraiment les images avec une dimension que l'on ne pouvait pas tout à fait encore imaginer à l'époque. Mais Lucas a quand même l'intuition qu'en termes d'effets visuels, on peut aller beaucoup plus loin. Comment est-ce que l'on pourrait donc utiliser des effets spéciaux numérique. Et c'est vrai que le début des années 80 est marqué par ce progrès des ordinateurs qui permettent d'envisager des productions à partir d'images calculées, comme on dit, ou d'images de synthèse. Et déjà en 88, avec le film de Ron Howard, Willow, on a du morphing, c'est-à-dire de la transformation de visages d'acteurs, une métamorphose à vue, quelques années plus tard, de 82 à 88. On voit bien qu'il y a une vraie révolution des trucages numériques, mais je dirais que cette grande révolution, elle commence en effet vraiment au cœur des années 80, et toute une série de films vont en montrer quelques éclats.